nous voulons te prier, Seigneur, de nous enseigner, de nous instruire, de nous éclairer, de nous diriger. Seigneur, nous avons absolument besoin de toi dans ces instants. Viens parler à nos cœurs, viens nous instruire, Seigneur, par ta parole, et que cette parole puisse porter un fruit abondant dans chacune de nos vies. Nous prions pour que cette parole ne tombe pas dans les oubliettes, mais qu'au contraire, elle puisse porter un fruit dans nos cœurs, pour que nos vies soient transformées, pour que nos relations soient transformées, pour que nous puissions mener des vies à ta gloire. Bénis ces instants, partage-nous non seulement ta parole, mais aussi ta paix, ta joie et ton amour en ces instants. Nous te louons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu, contents d'être ensemble aussi, surtout, et contents de pouvoir passer ces instants autour de l'Écriture. Alors, la dernière fois, j'avais terminé la série sur le chrétien mature. En tout cas, on avait interrompu la série sur le chrétien mature. Et donc, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série qui va nous tenir on ne sait combien de temps. C'est une série qui a été demandée par plusieurs dans l'Assemblée. Donc, elle a été demandée il y a 2 ans et on y est seulement. Donc, j'ai beaucoup de retard dans les choses demandées. On m'avait aussi demandé les fêtes juives, on m'avait demandé plein de choses et on est très en retard. Donc, c'est un petit peu comme la justice, il y a un arriéré. Donc, il faut attendre qu'on rattrape le retard. C'est un enseignement qui n'est pas adapté pour ce genre de contexte, très clairement, mais on n'a pas eu le choix parce que nous sommes une église de ministres où tout le monde est toujours occupé. Le mardi à l'étude, tout le monde est occupé. Le samedi, tout le monde est occupé. Donc on est obligé de le faire le dimanche. Ce n'est pas du tout l'idéal, mais tant pis pour vous. Voilà. Donc, évidemment, comme vous vous en doutez, nous allons parler enfin du Saint-Esprit. Ça, c'était juste les... Donc, enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, il y a des modifications dans les polices, donc vous ne verrez pas forcément tout, mais ce n'est pas grave, vous écoutez, et c'est ce qu'il faut. Alors, pour commencer, les buts de cet enseignement sur le Saint-Esprit qui va nous tenir pendant on ne sait combien de temps, ça dépendra un peu comment on avance, ça dépendra si vous êtes sage. Premier but, c'est de donner à chacun d'entre nous les bases bibliques de la doctrine sur le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier but, c'est que les uns et les autres, nous ayons une doctrine claire, biblique sur le Saint-Esprit, puisque c'est un sujet très compliqué, très controversé. C'est donc que nous puissions saisir les fondements de l'Écriture par rapport au Saint-Esprit. Mais deuxièmement, un but beaucoup plus pratique, c'est de permettre à chacun d'entre nous, au travers de ce que nous allons partager, au travers de ce que nous allons apprendre, de développer aussi une communion avec le Saint-Esprit toujours plus grande. Donc c'est en fait un enseignement qui a pour but d'éclairer un certain nombre de points théoriques, mais directement orienté vers la pratique. Donc ce n'est pas juste savoir pour savoir, ce n'est pas juste discuter pour discuter, c'est on étudie la doctrine, on étudie la parole de Dieu pour qu'on puisse ensuite en tirer des conséquences pour nous, pour nos vies personnelles, pour nos vies spirituelles. Alors, première considération que chacun peut avoir pour lui-même, dans son propre cœur, dans le secret de sa conscience, c'est quelle est ma relation avec le Saint-Esprit. Quand on me dit Saint-Esprit, qu'est-ce que ça me fait? Premièrement, est-ce que le Saint-Esprit, c'est un inconnu pour moi? Est-ce que quand on me dit Saint-Esprit, je me dis, ben oui, on en parle beaucoup, on en parle à l'Église, j'entends ce mot-là souvent, mais globalement, le Saint-Esprit, je ne sais pas trop qui c'est. J'en ai pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas trop ce que la Bible en dit, et je ne vois pas concrètement dans ma vie de tous les jours à quoi il pourrait bien servir. Première position, est-ce que certains se disent, ben oui, ça, oui, je sais, j'ai déjà entendu, je sais bien qu'on parle du Saint-Esprit, mais globalement, c'est un inconnu pour moi. Un petit peu comme quelqu'un qu'on connaîtrait de vue, vous avez certainement des voisins que vous connaissez de vue, dont vous pouvez dire, ben oui, il habite en face de chez moi, je le sais, mais vous n'avez jamais parlé avec lui, vous ne savez pas trop à quoi il ressemble, enfin, quels sont ses hobbies, ses passions, vous savez juste qu'il habite en face de chez vous. Première position possible. Deuxième position, est-ce que je suis un intellectuel du Saint-Esprit ? Donc un intellectuel du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, qui connaît énormément de choses sur le Saint-Esprit. Ça, c'est peut-être la position la plus représentée dans nos églises. C'est-à-dire qu'on parle du Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit, attention, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, mais tout reste dans la tête. Et donc on a beaucoup de connaissances sur le Saint-Esprit, mais ça reste intellectuel et ça ne passe pas dans le vécu, ça ne passe pas dans notre vie avec Dieu. Et alors, vous savez que le Saint-Esprit, c'est le sujet. Si vous voulez créer un bon débat dans une réunion entre chrétiens, vous lancez ça. Le Saint-Esprit. Mais tous les gens qui vont se lever sur leur chaise pour crier leurs opinions, vous n'êtes pas sûr que derrière, chez eux, ils ont une communion avec le Saint-Esprit. Parce que ça, ça reste intellectuel. Une autre position, est-ce que je suis un peu heureux du Saint-Esprit ? Quand on me dit ça, ouh là 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 là, oh, ça, c'est un sujet qui est bien gentil, mais j'aimerais quand même pas qu'on en parle trop. C'est un sujet qui m'insécurise, je n'aime pas trop qu'on en parle, ou alors qu'on en parle très très peu. Ou alors, aussi, j'ai eu de mauvaises expériences avec le Saint-Esprit, entre guillemets. Si c'est une mauvaise expérience, c'est pas mieux du Saint-Esprit, mais voilà. Et depuis, je suis assez méfiant et peureux sur la question du Saint-Esprit. Je préfère ne pas entendre parler de ce sujet-là. C'est une autre position. Il y en a peut-être qui ont les lèvres qui tremblent là maintenant, savoir qu'on va parler du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de peureux, c'est déjà ça. Ou alors une autre position, est-ce que je suis un résistant contre le Saint-Esprit ? Donc, oui, je sais que c'est dans la Bible, mais on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin d'en parler tant que ça, il faut mettre des bornes à tout ça, il ne faut pas trop se focaliser sur le Saint-Esprit, c'est ce qu'on entend aussi. Pas trop se focaliser sur le Saint-Esprit. Oui, bon, voilà, il est là, mais il ne faut pas trop en parler. L'important, c'est de parler de Dieu et de Jésus. Le Saint-Esprit, il est bien où il est, et on n'en a pas trop besoin. Est-ce que je suis un résistant par rapport au Saint-Esprit ? Une citation de Tozer qui dit ceci, écoutez bien, « La doctrine de l'Esprit, dans sa relation avec le croyant, a été au cours des 50 dernières années enveloppée dans un brouillard comme une montagne dans la tempête. » Un monde de confusion a voilé cette vérité. On a enseigné aux enfants de Dieu des doctrines contradictoires à partir des mêmes textes. On les a tellement avertis, menacés, intimidés, qu'ils reculent instinctivement devant toute mention de l'enseignement biblique sur le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'on a tellement enseigné de choses sur le Saint-Esprit, ça a tellement posé de problèmes, on a tellement raconté d'histoires que maintenant, les croyants... lève les boucliers quand on leur parle du Saint-Esprit. Et donc on en tire comme conséquence, ôtons nos résistances. Ôtons nos résistances et ouvrons-nous aussi à cette vérité biblique, malgré tout ce que nous avons pu vivre, de positif, de négatif, malgré tout ce que nous avons pu voir, n'est-ce pas ? Hein, parce qu'il y a des gens, ils se sont assis un jour devant leur ordinateur, en mangeant un spéculoos, ils ont vu une vidéo avec des gens qui tombent par terre, et depuis, ils ne veulent plus entendre parler du Saint-Esprit, parce que, oui, mais regarde ça, c'est n'importe quoi, comme si c'était ça le Saint-Esprit. Donc, autant de résistance pour étudier aussi ce thème biblique. Premier point que nous allons aborder, aujourd'hui nous allons voir la personnalité et la divinité du Saint-Esprit. Premier point, la personnalité du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit. Alors là, vous ne verrez rien du tout, mais c'est parce que Olivier a un très mauvais ordinateur. C'est terrible. Là. Non, c'est une blague. Il est tellement bien qu'il ne lit pas tout ça. Moi, je sais lire, donc vous, ne vous en faites pas. Écoutez. Premièrement, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne divine. On parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence, ce n'est pas une influence métaphysique, ce n'est pas une force cosmique, ce n'est pas une habitation impalpable. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est la personne divine qui est venue faire son habitation dans nos cœurs. Ça, on le verra en détail après. Quelles sont les caractéristiques d'une personne ? Trois caractéristiques pour parler d'une personne. Trois caractéristiques. Premièrement, pour dire qu'on est une personne, il faut avoir de la connaissance, de l'intelligence. Donc il faut avoir de la connaissance ou de l'intelligence, premièrement. Deuxièmement, pour être une personne, il faut avoir des sentiments. Il faut avoir des sentiments. Troisièmement, pour être une personne, il faut avoir une volonté. Il faut avoir une connaissance, une intelligence. Deuxièmement, il faut avoir des sentiments. Troisièmement, il faut avoir une volonté. Et on va voir que ces trois éléments particuliers d'une personne, le Saint-Esprit dans la Bible les a. Le Saint-Esprit a une intelligence, le Saint-Esprit a des sentiments, le Saint-Esprit a une volonté. Et c'est pour ça que la doctrine biblique du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Premièrement, le Saint-Esprit a une capacité de connaître, de raisonner, de comprendre, de penser. Prenons un premier exemple. L'Esprit enseigne aux hommes, par exemple. Pour enseigner, il faut avoir une connaissance, il faut avoir une raison. C'est 1 Corinthiens 2, verset 13, qui dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Donc le Saint-Esprit enseigne. Pour enseigner, il faut connaître, il faut avoir un raisonnement, il faut avoir une pensée. Premièrement, l'Esprit enseigne. On nous dit aussi, dans Romains 8, 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » La pensée de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une pensée. C'est un deuxième exemple. Troisièmement, l'Esprit connaît. Donc l'Esprit connaît les choses. L'Esprit pense, l'Esprit raisonne. 1 Corinthiens 2, 10 à 11 nous dit « Car l'Esprit sonde tout. » De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc on dit que le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Donc premièrement, le Saint-Esprit a une connaissance, il a une intelligence. Évidemment qu'on n'est pas dans une intelligence humaine, comme on pourrait dire un raisonnement, mais c'est une façon de dire que le Saint-Esprit peut parler en termes intelligibles, qu'il peut communiquer une pensée, qu'il a lui-même une pensée, et que dès lors c'est une personne. Premièrement, la connaissance ou l'intelligence. Et vous avez ces quelques versets-là qui donne des exemples. Deuxièmement, le Saint-Esprit a une volonté. C'est un deuxième élément distinctif, mais c'est comme un peu nous les humains. On a une connaissance, on a des sentiments, on a une volonté, c'est pour ça qu'on est des humains. S'il manque un des éléments, on n'est plus vraiment des humains. Le Saint-Esprit a une volonté. La volonté, c'est la capacité de faire des choix, de prendre des décisions, la capacité de vouloir, de ne pas vouloir, de décider, de faire, de parler, d'agir. Ça, c'est la volonté. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, a une volonté. Par exemple, 1 Corinthiens 12, verset 11, nous dit que l'Esprit distribue des dons aux chrétiens. D'accord ? Donc, si on dit que l'Esprit distribue des dons aux chrétiens, c'est qu'il a une volonté, la volonté de distribuer, la volonté de faire quelque chose, notamment distribuer des dons aux chrétiens. Acte 16, verset 11, nous dit « Le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province. » Le Saint-Esprit les avait empêchés. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit manifeste une volonté, dans ce cas-ci, la volonté d'empêcher quelque chose. D'accord ? Donc quelque chose qui n'est pas une personne ne peut pas avoir la volonté de. D'accord ? Donc la force qui attire tous les objets vers le sol, que je ne sais plus son nom, la gravité, la pesanteur, voilà, merci. Cette force-là, elle n'a pas de volonté. Elle agit, mais elle n'a pas de volonté. Elle ne veut pas que ça tombe. C'est simplement une force qui s'exerce dans ce sens-là et qui fait que les choses tombent. Le Saint-Esprit a empêché les chrétiens de faire, donc il a exprimé une volonté vis-à-vis des gens qui étaient présents. Acte 16, verset 7, lui dit « L'Esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit, s'opposa à leur projet. » Donc l'Esprit s'est opposé à leur projet. Il a manifesté une volonté. L'Esprit parle, nous dit la Bible aussi. Acte 13, verset 2, nous dit « Le Saint-Esprit leur dit. » Le Saint-Esprit leur dit. Acte 11, verset 12, le Saint-Esprit me dit. Donc vous voyez que tous ces éléments-là nous montrent bien qu'on a affaire à une personne, pas à une chose, pas à une force, pas à une idée, pas à une influence, mais bien à une personne. Le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Alors évidemment qu'on n'est pas dans des sentiments purement humains. On est ici dans avoir une affectivité, avoir une réceptivité aux choses. Les sentiments, c'est une capacité à ressentir, à éprouver des sentiments, à être touché. Le Saint-Esprit, par exemple, dans Éphésiens 4, verset 30 et dans Ésaïe 63, verset 10, on nous dit que le Saint-Esprit peut être affligé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc quand on dit n'attristez pas quelqu'un, ça signifie que la personne peut s'attrister. On a là les caractéristiques d'une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Romains 5, verset 30 nous dit que le Saint-Esprit éprouve de l'amour. Et le verset dit ceci, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus, et par l'amour de l'Esprit. » L'amour de l'Esprit, ça montre bien que l'Esprit a de l'amour. L'Esprit ressent l'amour, l'Esprit a des sentiments. Donc on vient de voir que le Saint-Esprit, dans la Bible, est une personne. Le Saint-Esprit a une connaissance, a une intelligence, le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a des sentiments, et dès lors, on doit considérer que c'est une personne. Deuxièmement, la divinité de l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, c'est un verset qu'on ne peut pas lire en entier, mais en tout cas, la fin du verset nous dit « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. » C'est-à-dire, c'est un verset dans lequel l'Esprit est équivalent au Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est équivalent au Seigneur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père, au même titre que le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit ce verset-là. Un autre verset nous dit, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc déjà, le fait qu'on le qualifie « Esprit de Dieu », ça en fait déjà une personne qui a une nature divine. Donc, par exemple, l'Esprit que nous avons tous en nous avons tous un esprit. Nous avons tous un corps, un âme, une âme, un esprit. Bien, l'esprit qui est en nous, il fait un avec nous. D'accord ? Vous ne savez pas vous adresser uniquement à mon esprit. Vous allez toujours avoir une relation avec ma personne. Je ne sais pas dire, je te parle à ton esprit, Evelyne. Je ne saurais pas lui dire ça. Je vais toujours m'adresser à toute sa personne. Donc quand on parle à Dieu, on parle à Dieu, et l'esprit de notre Dieu est partie prenante de Dieu. L'esprit fait un avec Dieu. L'esprit n'est pas distinct de Dieu. L'esprit n'est pas différent de Dieu. L'esprit fait un avec Dieu. On le verra plus en détail après. Et aussi, un autre élément qui nous montre la divinité de l'esprit, c'est que le Saint-Esprit, dans la Bible, a les mêmes caractéristiques que Dieu. Par exemple, l'omniprésence. Un verset qui nous dit dans la Bible, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ?» Vous connaissez ce verset-là. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ?» C'est une façon de dire « Je ne sais pas me cacher de ton esprit. » Dans le sens, il est présent partout. On ne sait pas se cacher de Dieu, tout comme on ne sait pas se cacher de son esprit. Donc, l'omniprésence, c'est une caractéristique de l'esprit. Aussi, l'omniscience nous est montrée dans un verset qu'on vient de lire, dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 13, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, nous dit la Bible, sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et dès lors, on a là quelque chose qui sonde les profondeurs de Dieu, connaît toutes choses. Pour sonder les profondeurs de Dieu, on est là dans la connaissance de toutes choses, la connaissance des choses, comprenez l'idée. Hébreux 9, verset 14, nous qualifie l'Esprit de Dieu d'Esprit éternel. 1 Corinthiens 9, 14, esprit, le combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel. Encore, une autre caractéristique qui est donnée à l'esprit, qui est aussi donnée à Dieu, c'est l'éternité, l'esprit éternel. Énormément d'autres preuves de cette divinité, par exemple, dans 1 Jean 5, verset 6, il nous est dit que l'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. Or, vous savez que dans la Bible, on ne dit pas de n'importe qui que c'est la vérité. 1 Jean 5, 6, l'esprit est la vérité. La Bible qualifie aussi l'esprit de Dieu d'esprit de gloire. Et vous savez que dans Matthieu 28, 19, on a cette fameuse formule au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Un autre consolateur, nous dit Jésus, dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez encore la même caractéristique, l'éternité qui est attribuée à l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est éternel. Et donc il est écrit « Il vous donnera un autre consolateur. » Alors vous voyez, l'idée c'est que Jésus dit « Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, le paraclet, c'est-à-dire celui qui va vous accompagner, celui qui va prendre ma place. » D'accord ? C'est encore un autre indice de la divinité de l'Esprit, puisque l'Esprit prend la place de Jésus, supplée Jésus, si on peut le dire comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un autre consolateur. Alors, pour suppléer quelqu'un, il faut forcément être au moins de la même nature que lui. D'accord ? Imaginez qui je prendrais en exemple. Qui veut être pris en exemple ? Qui meurt d'envie d'être pris en exemple ? Céline, par exemple. Imaginez qu'on ait envie d'une bonne tarte frangipane de Céline, qui nous fait tous grossir. D'ailleurs, si on prend du poids, c'est à cause de ça. Et qu'on dit, ben non, Céline ne saura pas venir parce qu'elle a un match de hockey, par exemple. On va devoir remplacer Céline. Mais on ne va pas remplacer Céline par quelqu'un qui ne sait pas faire une tarte frangipane. Comprenez ? On va remplacer Céline par quelqu'un qui a la même compétence qu'elle. D'accord ? Vous voyez l'idée ? Oui, si ça existe. Ah, il est gentil, Eric, hein, il a un gros cœur. Donc c'est ça l'idée, c'est que ce verset-ci nous montre bien que Jésus se fait remplacer par l'Esprit qui forcément doit être de la même nature que lui. D'accord ? Je vous enverrai un autre consolateur, évidemment, on étudiera ce verset-là en long et en large après. Donc le Saint-Esprit vient prendre la place d'une personne divine, étant lui-même une personne divine. Alors, ça c'est une citation. C'est une vérité fondamentale de l'Écriture, nous dit Walvoord, que l'Esprit Saint est une personne au même titre que Dieu le Père est une personne et que le Seigneur Jésus-Christ est une personne. L'Esprit Saint est présenté dans l'Écriture comme possédant la même divinité que le Père et le Fils, et on doit aussi lui rendre un culte, l'adorer, l'aimer et lui obéir. Considérer l'Esprit Saint comme étant autre que Dieu nous rend coupables de blasphème et d'hérésie. Donc considérer l'Esprit Saint comme autre que Dieu nous rend coupables de blasphème et d'hérésie. Alors il faut faire attention quand on parle, nous chrétiens. Parce que parfois, on a des façons de parler qui donneraient l'impression que le Saint-Esprit, c'est un accessoire de Dieu. Vous voyez, un petit peu comme un sac à main. Le Saint-Esprit, c'est mon petit... Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il partage la divinité du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors, vous connaissez le fameux « Gloire au Père » qu'on chante quand on va à l'église catholique. « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit » Ô Dieu qui était, qui est, qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Eh bien, c'est tout à fait... Ah ben oui, c'est ça, c'est... On doit récupérer les chants catholiques. Ils sont tellement, pas comme tous nos chants évangéliques, gling, 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 glang, 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 et puis, soit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quand je dis ça, je ne dis rien de blasphématoire. Je ne dis rien de blasphématoire. Si le Saint-Esprit était l'accessoire de Dieu, effectivement, ce serait blasphématoire, mais le Saint-Esprit étant Dieu lui-même, je peux dire gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alors cette image, vous la voyez, c'est ce qu'on appelle le bouclier de la Trinité en théologie. Alors, c'est très simple en fait, hein. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Suivez, faites des petits pour que je vois que vous suivez. Bon, c'est simple, au centre c'est Dieu. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, ok? Mais le Fils n'est pas l'Esprit, le Père n'est pas l'Esprit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et voilà, le Père n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père, d'accord? Donc, Dieu est en même temps, alors très attention, faites très attention aux nuances, parce que la Trinité, c'est une doctrine compliquée. Dieu est en même temps Père, en même temps Fils, en même temps Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu n'est pas à un moment Père, et puis à un moment Fils, et puis à un moment Esprit. Dieu est en même temps Père, en même temps Fils, en même temps Esprit. Sinon, on tombe dans une hérésie qu'on appelle le modalisme. Le modalisme, ça consiste à dire, ben, il y a un moment où Dieu est Fils, et puis il y a un moment où Dieu est Esprit, et puis il y a un moment où Dieu est, est Père. Dieu est en même temps Père, en même temps Fils, en même temps Esprit. Même quand Dieu se présente comme Fils, il est toujours encore en même temps Père et en même temps Esprit. C'est ça la doctrine de la Trinité. Seulement, il n'y a pas de mélange entre les personnes de la Trinité. Ça veut dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Ils sont un seul Dieu, en trois personnes, mais ils ne sont, il n'y a pas de confusion entre eux. Donc le Père est Fils, Saint-Esprit, donc Dieu est Père, et Fils est Saint-Esprit, mais le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est pas le... Voilà. Donc ici, vous l'avez en français, pour ceux qui auraient du mal avec le latin. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas l'Esprit. Donc la Trinité, rapidement, parce que c'est important de bien comprendre, quand on dit que le Saint-Esprit est Dieu, on parle de la Trinité. Les trois personnes sont distinctes, mais sont substantiellement une. Ils partagent la même nature. Il y a trois personnes qui partagent la même nature, et la nature, c'est la divinité. Donc nous tous ici, nous partageons la même nature, c'est l'humanité. Nous sommes tous distincts, mais nous partageons la même nature. Mais le Père, le Fils, l'Esprit partagent la même nature, et cette nature, c'est la divinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voilà, on va pas, on reviendra sur ça plus tard. Ça, c'est le symbole de Saint Athanase, qui nous dit, en fait, c'est un symbole du début de l'histoire de l'Église, dans lequel on a mis en écrit la doctrine de la Trinité, et dans lequel on explique justement que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, sans confondre les personnes, sans séparer la substance. D'accord ? Donc les personnes ne se confondent pas, mais elles ont la même substance, la même nature, si vous voulez. Donc immense est le Père, immense est le Fils, immense est l'Esprit, éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel le Saint-Esprit. Cependant, il n'y a pas trois éternels, il y a un seul éternel, il y a un seul Dieu. Alors, il y a ce magnifique chant que nous chantons parfois, que vous ne voyez pas malheureusement, c'est « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom. » Et puis, le dernier, la dernière strophe, c'est « Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'Église, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. » Et donc, c'est un chant trinitaire. Il faut, dans nos cultes, dans nos liturgies, qu'on revienne à des chants trinitaires. Pas vos chants de gling, gling, glang, glang, mais des chants centrés sur la personne de Dieu. Alors, un serviteur de Dieu, il n'y a pas longtemps, disait, c'est un des chants, il y a peu de chants aussi bibliques que celui-là, par exemple. Il y en a plein d'autres, mais pourquoi? Parce que c'est un chant qui contient, d'une part, la Trinité, qui est une vérité essentielle de l'Écriture. Et puis, deuxièmement, c'est un chant qui contient le but ultime de Dieu. C'est une prière qui se ramène au but ultime de Dieu. Quel est le but ultime de Dieu en toute chose? Sa gloire. La plus grande chose qu'on puisse faire sur terre, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Et donc on prie, on dit « Seigneur, glorifie ton nom ». Donc nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'Église. Alors vous allez voir en Jean 14, 26 que c'est ça la mission du Saint-Esprit, de glorifier Jésus. C'est pour ça qu'on peut prier ça. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'Église. Un chant profondément biblique. Un autre chant qu'on chante souvent. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Donc c'est encore un chant trinitaire dans lequel nous remercions aussi, nous prions aussi l'Esprit pour son œuvre. Cette prière-là, on ne va pas la voir parce qu'elle est très longue, mais elle est très belle. Un autre exemple de la personnalité du Saint-Esprit. Acte 15, verset 28. Vous l'avez déjà lu ? Qu'est-ce qu'il dit, Acte 15, 28 ? Vous le savez ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Acte 15, 28 ? Vous qui êtes des grands lecteurs de la Bible. Ah ! Acte 15, 28, voici ce qu'il dit. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Ça veut dire quoi, ça ? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer de charges nécessaires. C'est bizarre, non ? Ça ne vous fait pas bizarre de lire ça, vous ? Non. Vous allez toujours bien, vous. Hein ? Il n'y a rien qui vous choque. Hein ? Donc ça montre bien, c'est particulier, hein, ce verset. En fait, si vous voulez, c'est après le Concile de Jérusalem. D'accord ? Et après le Concile de Jérusalem, ils font ils prennent une décision et ils envoient une décision aux autres églises. D'accord ? Et ils leur disent, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça montre bien que dans ce passage-là, il y a comme une collaboration entre l'Esprit et l'homme. Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Nous avons réfléchi devant le Saint-Esprit, nous avons médité avec le Saint-Esprit, nous avons réfléchi à cette question par le Saint-Esprit et il nous a paru bon d'eux. Et donc, un grand théologien disait, le Saint-Esprit a besoin que l'homme soit en collaboration vivante avec lui. Il tient à ce que l'homme travaille activement avec lui. Il se réjouit de nous avoir comme collaborateurs. Le Saint-Esprit collabore avec nous. La preuve, c'est par exemple, quelle preuve qu'il collabore avec nous ? Il nous donne un don et nous l'exerçons. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui exerce ton don spirituel. Si tu as le don d'encouragement, par exemple, le Saint-Esprit te donne le don et c'est toi après qui vas encourager. Donc il y a là une collaboration entre l'Esprit et l'homme. Ce que son cœur désire, c'est que nous pensions ce qu'il pense, que nous sentions ce qu'il sent, que nous désirions ce qu'il désire. Le Saint-Esprit ne nous supplante jamais dans nos fonctions de réflexion, de sensibilité et de désir. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Et la Bible dit que l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que quand l'Esprit nous habite, nous tous chrétiens, il ne nous possède pas. C'est-à-dire que nous gardons la capacité de réfléchir, de sentir, de penser. Ok ? Le Saint-Esprit ne nous supplante jamais dans nos fonctions de réflexion, de sensibilité et de désir. C'est nous-mêmes qui devons penser, sentir et désirer, mais selon la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit est en nous, il nous éclaire, il nous dirige, mais nous gardons nos capacités de réflexion et nous pouvons collaborer avec l'Esprit. Ça va ? C'est lourd, hein ? Je sens bien que c'est lourd pour vous tous. Mais écoutez... Conclusion. On est déjà à la conclusion. Donc au fond, c'est pas... Ah, Marc est content. Oui. Une autre citation de René Pache. Si l'Esprit n'était qu'une puissance venue d'en haut, il serait à ma disposition et je pourrais en user à mon gré. Ça, c'est une tendance qu'il y a maintenant. On croit que l'Esprit est une puissance avec qui on peut faire ce qu'on veut. Mais non. Mais si l'Esprit est une personne... Et en plus de cela, s'il est Dieu lui-même, c'est moi qui dois être à sa disposition, l'aimer et lui obéir en toutes choses. En outre, recevoir dans son cœur non pas seulement une bénédiction, mais la présence du Dieu Tout-Puissant, c'est avoir en soi la source de toutes les grâces et de toutes les possibilités. C'est un théologien bien évangélique, hein, c'est pas un pentecôtiste qui a écrit ça. Recevoir en soi la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est ça le Saint-Esprit. La présence du Dieu Tout-Puissant en nous. Un autre encore qui dit, les enfants de Dieu ont déjà le Saint-Esprit à demeure en eux, mais ils ne s'en rendent pas compte ou ne lui obéissent pas. Ils doivent réaliser, les enfants de Dieu, que cette présence intérieure est une personne. C'est quelqu'un qui enseigne, qui conduit, qui leur communique la réalité de Christ. Nous avons en nous une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui nous habite. C'est Dieu qui nous habite. Et il continue, notre esprit est le lieu très saint de Dieu par lequel nous communions avec le Saint-Esprit et dans lequel nous communions avec le Saint-Esprit et dans lequel nous nous attendons à ce qu'il communie avec nous. Si nous le reconnaissons et le respectons, il manifestera sa puissance. On peut donc vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Si on devait résumer ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en moi. Je suis son temple, il veut me remplir et m'équiper pour agir. Il œuvre en me dirigeant, en me parlant, en me convainquant, en m'éclairant et je veux me soumettre à sa guidance. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu en nous, en chacun d'entre nous. Et nous devons donc être dans une dynamique de chercher à être en communion avec Dieu qui habite en nous, cette personne divine qui est en nous. Imaginez-vous, est-ce que ce serait pensable d'avoir une personne en nous qui soit Dieu et qu'on n'en soit absolument pas conscient? Est-ce que ce serait pensable? Si Dieu habite en moi, je peux vivre une communion avec cet esprit qu'il me donne. Je peux me soumettre à sa guidance, je peux me laisser diriger par l'esprit, je peux marcher par l'esprit, je peux demander la direction de l'esprit, parce que cet esprit, il est en nous. Donc, l'objectif premier, c'est que nous comprenions que nous, on ne peut pas être intellectuel du Saint-Esprit, puisque c'est une personne. Si c'était une chose, on pourrait comme résistance des matériaux. Vous connaissez résistance des matériaux, c'est un cours. Eh bien voilà, résistance des matériaux, quand on met ça, mais bien sûr, on pourrait. Mais on parle d'une personne. On parle de Dieu. La personne divine en nous, et dès lors, c'est une personne avec qui nous devons aspirer à avoir une communion. Alors ce beau chant qui dit « Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix, qui vient me dire tout bas, oui, je suis là, viens te poser sur moi. » Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Voilà notre prière, ça devrait être ça. Colombe de l'esprit, remplis mon cœur, remplis ma vie. Dernier verset de Corinthiens 3, 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Que la communion de l'Esprit soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On continuera la semaine prochaine alors, si vous n'avez pas fouillé d'ici là.